Chanson d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, bienvenue dans les meilleurs moments d'accent. Direction les Pays-Bas où l'on mange bien, même très bien, ce qui bat en brèche pas mal de clichés. Des clichés qui volent en éclat également avec les chiffres de l'Agence européenne des droits. La Finlande et le Danemark dans le peloton de tête du record des femmes battues. Ce sont des chiffres glaçants et ils émanent de l'Agence des droits fondamentaux de l'Europe. Une femme sur trois dans l'Union européenne a subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie depuis l'âge de 15 ans. Près de 62 millions d'Européennes ont ainsi été victimes de mauvais traitements et une femme sur 20 a été violée. Et là où ces chiffres sont encore plus surprenants, c'est que cette violence frappe en particulier les Nordiques. Habitués d'être en tête de tous les classements, école, bonheur, parité, transparence, ils se seraient bien passés de cette statistique. Dans le peloton de tête, on trouve la Finlande. 47% des femmes déclarent ainsi avoir été un jour victimes de violences. Une tendance qui dure depuis des décennies. Reportage Pauline Curté.
Dans les bureaux de l'association de la Naistenlinja, la ligne pour les femmes, au centre d'Helsinki, on s'occupe quotidiennement d'un sujet tabou en Finlande, la violence contre les femmes. Avec un outil simple, un service d'écoute, que les victimes de violences peuvent appeler pour se confier ou chercher des conseils. L'association connaît un triste succès. Chaque année, 1300 femmes la contactent par téléphone, sans compter les centaines de messages reçus via son site internet ou sa page Facebook. Kaisa Auberg coordonne l'activité des bénévoles qui répondent aux victimes. Même si chaque cas est unique, elle connaît sur le bout des doigts les réflexes à adopter pour aider ces femmes en danger.
La phrase qui revient le plus souvent quand elles nous appellent pour la première fois, c'est « Je pense que quelque chose ne va pas dans ma relation avec mon conjoint, mais je n'en suis pas sûre. » Elles cherchent un avis extérieur, elles prétendent que rien n'est encore arrivé. Mais quand on commence à parler, on découvre des choses terribles. Beaucoup de femmes se font taper dessus avec une chaise ou pousser dans les escaliers. Mais tant qu'elles ne reçoivent pas un coup de poing dans le visage, elles estiment qu'elles ne sont pas agressées. Alors on les aide à reconnaître cette violence en leur expliquant qu'il n'est pas normal d'être traité ainsi.
Lors d'une émission de télévision finlandaise, Jaana Mahansalo, mère de famille, confirme le calvaire que devient la vie d'une femme violentée.
Au début, il y avait bien quelques signes, mais je n'ai pas voulu les remarquer. Par exemple, une fois, je discutais avec une amie lors d'une fête. Mon mari a voulu danser avec moi. J'ai refusé. Il m'a alors insultée et m'a jeté des boissons à la figure. Pendant plusieurs années, il n'avait même pas besoin de me toucher. J'avais peur sans qu'il le fasse. Il suffisait qu'il croise les bras et me fixe du regard. Et puis les coups ont commencé à tomber. Mais je restais, car tant qu'il y a de l'amour, on se dit qu'on ne peut pas se débarrasser d'un homme.
En Finlande, le cas de Jaana Mahansalo n'est pas isolé. En témoignent les appels recueillis par la Naistenlinja, qui font état d'actes terribles. Ces niveaux de violence élevés existent depuis des décennies dans le pays. Chaque année, une trentaine de Finlandaises meurent sous les coups de leurs compagnons. C'est moins qu'en Espagne ou au Portugal, mais la persistance de cette violence dans le pays nordique reste très surprenante, car lorsqu'il s'agit de promouvoir l'égalité hommes-femmes, la Finlande est l'un des pays les mieux placés au monde. Que ce soit en termes de salaire, de la place des femmes en politique ou de la répartition des tâches ménagères, la Finlande constituerait même un petit paradis pour le deuxième sexe. Pour Pia Oksanen, directrice de la Naistenlinja, c'est cette vision qui pose problème.
Nous sommes dans une culture de la honte. La victime est non seulement accusée d'avoir provoqué ces violences, mais en plus, on attend de la femme finlandaise qu'elle soit très forte, car elle est censée être l'égale de l'homme. C'est très dérangeant. Les politiciens et même le public en général ne veulent pas savoir qu'une telle situation persiste dans notre pays. Ils ne veulent pas savoir que les inégalités perdurent, car cela signifie l'échec de notre société.
Leena Ruusuvuori dirige le Conseil national des femmes de Finlande, qui regroupe toutes les associations chargées de promouvoir l'égalité des sexes et la protection contre les violences. S'ils ne l'ont pas surprise, les chiffres du rapport européen qui pointe l'échec du pays nordique en la matière, l'ont malgré tout mise en colère.
En Finlande, beaucoup d'hommes se sentent menacés. Ils pensent que notre combat pour l'égalité est allé trop loin. Après tout, il ne faut pas oublier que la violence est une affaire de pouvoir. Ici, le sujet est tabou. Quand on en parle, on la met sur le dos de l'alcool. On pense qu'un couple s'est bagarré parce que l'homme et la femme étaient sous. Mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Toutes ces familles normales en apparence où le mari frappe son épouse n'ont rien à voir avec l'alcool.
En Finlande, comme partout ailleurs en Europe, la prévention existe, bien sûr. Ainsi, cette campagne que vous entendez met en scène une jeune femme isolée sous l'emprise d'un homme manipulateur. Elle a largement circulé sur les réseaux sociaux. Mais dans le pays nordique, les moyens manquent pour aider celles qui sortent du silence. C'est ce que regrette Minna Piispa, chargée de développement au sein de l'Institut ministériel pour la santé et le bien-être.
Ici, la violence est trop souvent considérée comme tolérable. Les gens pensent qu'il n'est pas toujours nécessaire de punir les coupables. Le résultat, c'est qu'on ne considère pas la violence contre les femmes comme un problème. Nous n'avons pas assez de foyers pour accueillir celles qui voudraient quitter leur mari ou leur petite amie. Pour le moment, seules des associations non gouvernementales offrent de l'aide aux femmes violentées, alors que ça devrait être au gouvernement d'en prendre la responsabilité.
Et comme si leur mauvais bilan en termes de violence contre les femmes ne suffisait pas, les Finlandais vont aussi devoir faire face à un autre problème. Dans le rapport publié par l'Agence européenne pour les droits fondamentaux, la Finlande est désignée comme étant le pays d'Europe le plus violent contre les enfants âgés de moins de 15 ans. Une ombre de plus au tableau de ce pays où il fait soi-disant bon vivre.
Et numéro 1 de ce sinistre classement, le Danemark. Même paradoxe que pour la Finlande, alors que le pays est considéré comme un modèle d'égalité homme-femme. Sung Shim Courrier nous appelle de Copenhague.
Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Europe, l'égalité homme-femme implique une exposition plus grande à des situations de violence. C'est justement parce que le Danemark est un pays où les femmes jouent un rôle actif dans la société qu'elles seraient aussi plus exposées. Les Danoises ont une vie riche en dehors de leur domicile, que ce soit pour se rendre sur leur lieu de travail ou parce qu'elles ont une vie sociale active, elles sont plus confrontées au harcèlement. Plus d'un tiers des femmes danoises victimes de harcèlement sexuel l'ont été sur leur lieu de travail. Des chiffres relativement élevés qu'il faut mettre en lien avec la société égalitaire du Danemark. Et quand on sait que les femmes ici sont nombreuses à occuper des postes à responsabilité, managers, chefs d'entreprise, prêtres, voire ministres, on en conclut aussi qu'elles sont mieux formées que les autres pour détecter ce type de comportement. Parmi les autres facteurs qui expliquent la position de tête du Danemark dans le classement, un taux d'urbanisation élevé ou encore la consommation d'alcool. En effet, les Danois sont connus pour être des adeptes du binge drinking. Enfin, rappelons que repérer les violences et les dénoncer est peut-être difficile dans des pays moins égalitaires comme dans le sud de l'Europe. L'Agence des droits fondamentaux de l'Europe insiste sur le fait que dans ces pays, les chiffres sur la violence à l'égard des femmes seraient certainement sous-estimés. Contrairement à une société comme le Danemark, où les femmes seraient plus enclines à dénoncer les violences dont elles sont victimes.
Pour refermer ce dossier, sachez que la France, elle, se place aussi dans la moyenne haute. 44% de femmes victimes de violences au cours de leur vie d'adulte, c'est-à-dire depuis leurs 15 ans.
Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir.
C'est un classement qui bat en brèche un certain nombre de préjugés. Oui, on mange bien aux Pays-Bas et pour pas cher. C'est en tout cas ce qu'annonce l'ONG Oxfam. Poissons et viandes, légumes verts, tout est plus abordable qu'en France ou en Suisse pour une qualité plus que correcte. Le nouvel index Good Enough to Eat, publié en ce début d'année, répertorie en tout 125 pays. L'Europe est en tête, l'Australie 8e. Mais attention, hein, pas de confusion, il ne s'agit pas de gastronomie, non. On parle d'abord d'un rapport qualité-prix dans la nourriture. Reportage à Amsterdam, Sabine Sessou.
Nous sommes dans un supermarché Albert Heijn à Amsterdam. Cette chaîne se livre avec la concurrence une vraie guerre des prix. Du coup, le panier de la ménagère est bon marché aux Pays-Bas. Il a permis au pays de se classer en première position dans l'index global sur la sécurité alimentaire d'Oxfam. Les experts d'Oxfam ont été les premiers surpris. Les Néerlandais sont plus connus pour leur gastronomie assez simple et des déjeuners qui se résument à un sandwich et un verre de lait. Mais ils arrivent en première position dans l'abondance de l'offre, la diversité des produits alimentaires, le prix des aliments, mais aussi, le quatrième facteur, les conséquences de leur régime sur leur santé. Tom van der Lee, directeur de campagne d'Oxfam aux Pays-Bas.
Traditionnellement, les Pays-Bas font partie des plus grands exportateurs de nourriture dans le monde, ce qui explique que le pays a une industrie alimentaire solide et que les prix des produits sont relativement bon marché. C'est également une société assez égalitaire. Cette offre diversifiée et bon marché est la meilleure au monde.
Des pays comme le Japon et la Grande-Bretagne arrivent en 21e et 22e position dans l'index. Ce sont les prix qui posent problème au Japon, tandis que les États-Unis affichent des problèmes d'obésité et de diabète. Les Pays-Bas arrivent premiers pour des raisons de santé, comme le rappelle Tom van der Lee.
Nous bénéficions du fait que nous sommes un pays plat et les gens font beaucoup de vélo. Du point de vue des indicateurs de santé, surtout du diabète, nous faisons mieux que d'autres pays dans le monde occidental et l'hémisphère nord.
Sur le marché Albert Cuyp au centre d'Amsterdam, on choisit son poisson, assez bon marché. 3 euros pour un grand filet de maquereau ou de hareng fumé, à peine 4 euros la grosse tranche de thon. Anne Boat, une Française qui vit à Amsterdam depuis plus de 20 ans, nous donne son point de vue sur l'alimentation aux Pays-Bas.
Elle est diversifiée. Bonne, c'est pas toujours le cas, parce que on trouve effectivement tous les fruits et les légumes toute l'année. Ils sont élevés sous serre, sous quelles conditions ? Ça, c'est le souci. Et au niveau de la viande, on a quand même un choix assez restreint. C'est-à-dire que soit on est tout de suite dans l'agroalimentaire, donc avec poulet, porc et bœuf. Et dès qu'on veut passer sur quelque chose d'un peu différent, des pièces de choix de bœuf ou autre, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que là, il faut passer dans des magasins biologiques qui sont très chers.
La présence de grandes industries de l'agroalimentaire aux Pays-Bas, comme Unilever, rend la nourriture un peu industrielle. Le poulet hormoné, notamment, ne fait pas toujours envie pour son côté caoutchouteux, comme nous l'explique Anne Boat.
Ici, ils appellent ça le ploufkip, qui grandit en 40 jours. Donc, Albertine vend, tous les supermarchés s'y vendent, ces poulets hormonés, qui sont élevés de façon très rapide et qui ont le double du poids qu'un poulet élevé à la ferme de façon normale.
Plusieurs scandales ont éclaté ces derniers mois aux Pays-Bas. Un charcutier d'Amsterdam a reconnu avoir fait du pâté de gibier avec des pigeons tués dans la ville. Et des chevaux utilisés comme cobayes par les laboratoires Pasteur en France se sont retrouvés sous forme de viande dans des lots vendus comme du bœuf. À ces scandales s'ajoutent de petits problèmes d'hygiène, comme l'explique Anne Boat.
Régulièrement, il y a des soucis comme ça. Il y a aussi l'histoire des chats qui étaient retrouvés dans les kebabs, les snacks. Il y a des soucis d'hygiène aussi, mais ça, je pensais par tout le monde, dans les snacks. Où, comme il y a énormément de souris à Amsterdam, il y a beaucoup de souris qui tombent dans les huiles de friture.
La qualité s'est beaucoup améliorée dans les restaurants d'Amsterdam, une grande destination touristique. On y propose des plats de tous les pays du monde, avec une inspiration parfois française. Stéphane De Vries, correspondant de presse néerlandais installé à Paris, explique la différence entre les deux pays.
J'étais un peu surpris parce que la gastronomie néerlandaise n'a pas une excellente réputation. Mais en fait, il ne s'agit pas de la gastronomie, il s'agit de l'offre. Et comme les Pays-Bas, c'est une plaque tournante de tous les produits du monde, c'est logique qu'il y a beaucoup d'offres et en fait, quand tu vas dans un supermarché aux Pays-Bas, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher qu'ici. Tu payes peut-être un tiers pour des produits qui sont vraiment de meilleure qualité qu'ici et il y a beaucoup plus de variations aussi. Il y a la cuisine du monde entier aux Pays-Bas dans les supermarchés. Ici, ce n'est pas forcément le cas.
Les Pays-Bas bénéficient donc de leur longue histoire d'ouverture sur le monde. Pour résumer, la clé de leur succès tient en ces deux mots, des sushis et du vélo.
Sortir.
Un an de l'Hour nous propose un petit voyage vers la rive asiatique d'Istanbul, considérée à tort comme plus orientale et moins vivante que sa consœur occidentale. Le quartier de Kadıköy en est la preuve.
L'idéal pour découvrir Kadıköy, c'est de commencer par la mer de Marmara qui le borde de tout son long. On s'en approche donc en bateau pour voir se dessiner la gare de Haydarpaşa, la plus grande du pays et la plus belle aussi. À peine débarqué, on est presque aussitôt happé par l'énergie de ce quartier. La foule se perd dans les petites rues, repères d'antiquaires, de quelques très bons restaurants et d'innombrables cafés et bars où l'on peut s'asseoir jour et nuit. Pour les amateurs de football, Cadecueil est surtout le nid des Canaries, les joueurs de Fenerbahçe. Le stade est à quelques minutes. Impossible d'oublier les jours où il y a match. Les groupes de supporters affichent leurs habits bleus et jaunes et chauffent leurs cordes vocales dès le début d'après-midi. Il n'y a pas que les supporters qui font du bruit à Cadecueil. Le quartier, bastion anti-gouvernemental, est de toutes les contestations. Les couleurs arc-en-ciel, devenues l'un des symboles des manifestations massives de l'été 2013, habillent encore les escaliers et autres mobiliers urbains que la mairie d'opposition s'est bien gardée de repeindre. Cadecueil est un vieux quartier, la toute première colonie grecque sur les rives du Bosphore, lit-on souvent. Catholique latin, arménien catholique ou de l'église apostolique, grec orthodoxe, de nombreuses confessions chrétiennes y possèdent une église et des messes y sont célébrées. Un peu plus haut, c'est l'avenue de Bagdad, 6 km de long, aucun intérêt touristique, sauf la curiosité de voir à quoi ressemblent les Champs-Élysées stambouliotes. Mieux vaut opter pour une balade sur le front de mer, très bien aménagée avec une longue piste cyclable, ce qui, à Istanbul, est encore un pur luxe. C'est aussi l'endroit idéal pour admirer le coucher de soleil sur l'Istanbul européenne, au cas où, malgré tout, elle vous aurait manqué.
Et on se quitte, c'est une habitude maintenant, avec le choix musical très pointu de Vincent Teval.
The Go Find, c'est le groupe de Dieter Sermeus, un garçon qui est né il y a une petite quarantaine d'années à Anvers, en Belgique, et qui s'est dans un premier temps intéressé aux guitares avec son premier groupe, Orange Black, avant de se tourner en 2001 vers des sonorités plus électroniques. Initialement, The Go Find était un projet parallèle, mais il a rapidement pris suffisamment de consistance pour que le Belge s'y consacre totalement avec un premier album en 2004. Parfaite synthèse de ce qu'est l'électropop à son meilleur, à la fois mélancolique et enlevée, très mélodieuse et en équilibre constant entre instrumentation organique et synthétique, une prouesse aujourd'hui renouvelée sur un quatrième album absolument formidable, Brand New Love.
D'Europe, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur le site RFI.fr. Merci de nous avoir suivis. Merci à Françoise Grelot pour la réalisation. Restez à l'écoute dans quelques instants, les infos.